guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 5, scène 2. Le lendemain du départ du prince André, le prince Bolkonski fit appeler sa fille.
« Te voilà, je l'espère, satisfaite. Tu m'as brouillé avec André, c'est ce que tu voulais. Quant à moi, j'en suis triste et affligé. Je suis vieux, je suis faible, je suis seul. Mais c'est ce que tu voulais. Va-t'en !»
Il la renvoya sur ses paroles, et il se passa une semaine sans qu'elle le vît, car il tomba malade et ne quitta pas son cabinet. La princesse Marie remarqua, à sa grande surprise, que Mademoiselle Bourienne n'y avait plus ses entrées comme autrefois. Son père n'acceptait plus que les soins du vieux Tyconne. Au bout de 8 jours, il se remit, reprit son existence habituelle, s'occupa avec une nouvelle activité de ses constructions et de ses jardins, et dès ce moment, son intimité avec Mademoiselle Bourienne cessa complètement. Toujours en froid et dur avec sa fille, il semblait lui dire
« Tu m'as calomnié auprès d'André, tu m'as brouillé avec lui à cause de cette Française. Et tu vois bien que je n'ai besoin de personne, pas plus d'elle que de toi. »
La princesse Marie passait une partie de la journée chez le petit Nicolas, assistait à ses leçons, lui en donnait elle-même et causait avec Dessalle. Elle consacrait le reste du temps à lire, à causer avec sa vieille bonne, avec les pèlerins, qui continuait à venir la voir en passant par l'escalier dérobé. Elle songeait à la guerre, comme y songent les femmes. Elle craignait pour son frère. Elle déplorait la cruauté des hommes qui s'égorgent les uns les autres, sans accorder toutefois à cette dernière plus d'importance qu'aux précédentes. Dessalle, qui en suivait la marche avec un vif intérêt, lui exposait cependant de temps à autre ses opinions et la tenait au courant des nouvelles. De leur côté, les pèlerins lui faisaient part de leur terreur, lui racontant à leur façon la venue de l'Antéchrist personnifié dans Napoléon, et la belle Julie, devenue princesse Droubetskoye, lui écrivait des lettres pleines d'un patriotisme exalté. « Je vous écris en russe, ma chère amie, car je hais les Français et leur langue, que je ne puis plus entendre parler. Nous sommes à Moscou. » Et tout le monde y est d'un enthousiasme indescriptible pour notre empereur adoré. Mon pauvre mari supporte la faim et les privations dans de sales trous où il n'y a que des juifs. Et les nouvelles que j'en reçois ajoutent encore à mon exaltation. Vous aurez entendu parler de l'héroïque exploit de Raïevski, embrassant ses deux fils et leur disant « Je mourrai avec vous, mais nous ne faillirons pas. » Et en vérité, quoique l'ennemi fût 2 fois plus nombreux, nous n'avons pas failli. Nous passons le temps comme nous pouvons, à la guerre comme à la guerre. La princesse Aline et Sophie viennent chaque jour chez moi, et nous causons alors, pauvres veuves de paille que nous sommes, sur des sujets édifiants en préparant la charpie. Vous seul, mon ami, vous me manquez. Etc., etc. Si la princesse Marie ne se rendait pas suffisamment compte de l'importance extrême des derniers événements, la faute en était à son père, qui ne lui en parlait jamais. Il faisait semblant de les ignorer et se moquait, à table, de Dessalle et de ses nouvelles sensations. Son ton assuré et calme inspirait à sa fille une confiance aveugle et, sans réfléchir, elle croyait à tout ce qu'il disait. Plein d'activité et d'énergie, il dessina pendant le mois de juillet un nouveau jardin et posa la première pierre d'une nouvelle habitation pour sa nombreuse domesticité. Un symptôme inquiétait cependant la princesse Marie. Il dormait peu et changeait de chambre chaque nuit. Il faisait placer son lit de camp tantôt dans la galerie, tantôt dans la salle à manger, ou bien, s'établissant dans un fauteuil du salon, il somnolait au son de la voix du petit domestique Petroucha, qui avait remplacé Mademoiselle Bourienne comme lecteur. Le 1er du mois d'août, il reçut une lettre de son fils, qui lui avait déjà écrit pour le supplier de lui pardonner et d'oublier ce qu'il s'était permis de lui dire. Le vieux prince avait répondu par quelques mots affectueux. Dans cette seconde missive, le prince André lui racontait en détail l'occupation de Vitebsk par les Français et les incidents de la campagne. Lui en donnait même le plan, avec toutes les combinaisons qu'il pouvait ultérieurement entraîner, et terminait en l'engageant vivement à s'éloigner du théâtre de la guerre, qui se rapprochait de plus en plus de l'Issigorie, et de se retirer à Moscou. Des salles, auxquelles on venait d'apprendre que les Français étaient à Vitebsk, s'empressa de l'annoncer, à table, au vieux prince, qui se souvint alors seulement de la lettre de son fils.
« J'ai eu une lettre du prince André ce matin, »
dit-il en se tournant vers sa fille.
« L'as-tu lue ?»«
Non, mon père, » répondit-elle effrayée. Comment, en effet, aurait-elle pu lire une lettre dont elle avait même ignoré l'arrivée ?«
Il m'écrit au sujet de cette guerre, »
poursuivit son père, en souriant avec dédain, comme toujours lorsqu'il abordait ce sujet.
« Elle doit être fort intéressante, »
dit Dessalles.
« Le prince est à même de savoir. »«
Oh, sûrement !» s'écria Mademoiselle Bourienne.
« Allez me la chercher !»
dit le vieux prince.
« Elle est sur la petite table, sous le presse-papier. »
Mademoiselle Bourienne se leva avec un empressement marqué.
« Non, non !»
reprit-il en fronçant les sourcils.
« Allez-y, vous, Michel Ivanovitch !»
Michel Ivanovitch obéit, mais à peine eut-il quitté la chambre que le prince se leva avec impatience et jetant sa serviette sur la table.
« Il ne trouve jamais rien et il me mettra tout en désordre !»
murmura-t-il en sortant vivement. La princesse Marie, Mademoiselle Bourienne et le petit Nicolas se regardèrent en silence. Le vieux prince, suivi de Michel Ivanovitch, revint bientôt, rapportant avec lui le plan de la nouvelle construction et la lettre de son fils. Il la posa à côté de son assiette, et le dîner s'acheva sans qu'il fît la lecture de la lettre. Lorsqu'ils furent au salon, il la donna à sa fille, qui, après l'avoir lue à haute voix, regarda son père. Celui-ci, absorbé dans la contemplation de son plan, semblait n'avoir rien entendu.
« Que pensez-vous de tout cela, prince ?»
lui demanda timidement Dessalles.
« Moi ?»
dit le prince brusquement, sans lever les yeux.
« Il serait possible que le théâtre de la guerre se rapprochât de nous. »
poursuivit Dessalles.
« Le théâtre de la guerre !»
répliqua le prince.
« Je l'ai dit et je le répète, le théâtre de la guerre est en Pologne, et l'ennemi n'ira pas plus loin que le Niémen. »
Dessalles le regarda stupéfait. Parler du Niémen, lorsque l'ennemi se trouvait déjà sur le Dniepr. Seule la princesse, oubliant sa géographie, acceptait à la lettre les paroles de son père.
« Oh, la fonte des neiges! Ils seront tous engloutis dans les marais de la Pologne. Bennigsen aurait dû depuis longtemps entrer en Prusse. L'affaire aurait marché autrement. »
continua le prince, qui se reportait évidemment à la campagne de l'année 1807.
« Mais, prince, »
dit Dessalles encore plus timidement,
« dans cette lettre, il est question de l'occupation de Vitebsk. »« Dans la lettre ? Ah oui, oui !»
reprit-il, et sa physionomie s'assombrit.
« C'est vrai, il écrit que les Français ont été battus, je ne sais où, près d'une rivière quelconque. »
Dessalles baissa les yeux.
« Le prince André ne parle pas de cela. »
dit-il doucement.
« Il n'en parle pas. Je ne l'ai pas inventé, pourtant. »
Un long silence suivit ces mots.
« eh bien, Michel Ivanovitch, »
dit-il tout à coup.
« Explique-moi comment tu penses remédier à ce défaut dans notre plan. »
Michel Ivanovitch ne se le fit pas prier, et le prince, après l'avoir écouté quelques instants, quitta le salon en jetant à sa fille et à Dessalles un regard irrité. La princesse Marie surprit sur le visage du gouverneur un profond étonnement, mais elle n'osa ni lui en demander la cause, ni chercher à la deviner. La fameuse lettre fut oubliée par son père sur la table du salon. Michel Ivanovitch va la réclamer dans le courant de la soirée. La princesse Marie la lui donna et s'informa, bien que la question l'embarrassât singulièrement, ce que faisait son père.
« Il s'agite, »
répondit l'architecte, avec un sourire respectueux mais ironique qui la fit pâlir.
« La construction de la nouvelle maison le préoccupe beaucoup. Il a lu quelques pages et maintenant il est à farfouiller dans son bureau. Il fait probablement son testament. »
Depuis quelque temps, le classement des paperasses qui devait voir le jour après sa mort était devenu le passe-temps favori du vieux prince. « Vous dites qu'il envoie Alpatych à Smolensk ?» demanda la princesse Marie.
« Oui, Alpatych est prêt à partir. Il attend ses ordres.